Cet épisode a une distance de 9 km à un pace de 6 minutes 30. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.io.
Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu.
Notre mission, vous accompagner à vous mettre ou vous remettre en forme grâce à la course à pied. On enregistre ça au mois d'octobre et cette année, c'est merveilleux. Il faisait encore 20 degrés hier et on était le 28 octobre. On court en short et en t-shirt. Ce qu'on réalise peut-être pas, c'est que l'hiver est à nos portes et d'ici quelques jours, il va commencer à faire froid et il va falloir penser à courir l'hiver. C'est en plein le sujet qu'on va parler aujourd'hui, les différentes techniques, comment s'habiller, comment penser le mindset, qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver quand on est un coureur. Bonjour, Coach Bill.
Hey, bonjour, mon coach préféré.
Oh, coach préféré, ça j'aime ça. C'est mon nouveau nom, je vais le changer sur le site web.
T'as plus de nom, c'est coach préféré.
Coach préféré, yes sir. Avant d'y aller avec le sujet, on a quelques petits trucs qu'on veut discuter du chit-chat de début de podcast. Moi, je voudrais faire un props à nous deux, puis à tous nos auditeurs aussi, parce qu'on a dépassé le 10e épisode. En fait, j'ai oublié d'en parler, je voulais en parler le dernier épisode duo qu'on a fait. Il y a une statistique que je contredis parfois, mais il y a un gros, gros nombre, puis là, je ne sais pas où est-ce qu'on en est rendu. Là, je peux aller chercher les chiffres parce que ce n'est pas moi le pertinent. Mais en gros, il y aurait comme au-dessus de 80 ou 90% des podcasts qui ne se rendent jamais au 10e épisode. Où je le contredis, c'est qu'il y a des podcasts, des fois, que c'est une série de 6, puis ils ont couvert le sujet, fait que c'est fini. Fait qu'eux autres, ils n'auraient pas continué de toute façon. Mais dans des podcasts hebdomadaires comme qu'on fait, c'est souvent les gens abandonnent avant le 10e. Fait qu'on est déjà dans le gros 10% des gens qui ont continué au-dessus de 10. Fait que félicitations, Coach Bill. Je voulais te remercier, puis je voudrais faire un petit shoot-out là-dessus. Puis on a un bon momentum là-dessus aussi. Fait que je sens qu'on va continuer un bout.
Plaisir partagé, Coach Frank. Puis effectivement, au départ, on se posait la question, est-ce que c'est trop intense de se mettre une pression de le faire en hebdomadaire? Pour l'instant, c'est juste du plaisir. Puis moi, je regarde notre sac à sujet, puis je pense qu'on est bon pour encore un méchant bout.
Oui, puis ce qui est le fun quand on creuse comme ça, c'est qu'on va aller de plus en plus creux aussi. Mais que notre sac à sujet soit épuisé, on va comme aller chercher d'autres angles, d'autres sujets qu'on n'avait peut-être pas pensé au début.
Puis ça me fait penser que vos idées de sujets sont toujours bienvenues, soit coureur.io, il y a un formulaire de contact, sinon via le Messenger de la page Facebook, shootez-nous-les vos sujets. On est toujours intéressé à savoir qu'est-ce qui vous intéresse, puis on pourra les creuser pour vous, puis trouver peut-être même un invité pertinent.
L'autre point que je voulais parler, une de tes contacts, je ne sais pas si c'est une amie qui nous a envoyé un super beau message de la rétroaction. Fait que Colombe, on te salue, on te remercie. On était vraiment contents, d'ailleurs, de ton feedback sur la vitesse lente. Moi et Bill, on est des prôneurs, on est des ambassadeurs de courir lentement. Et tu disais justement que c'était peut-être pas assez véhiculé, que les gens ont des fausses croyances, que s'ils ne courent pas assez vite, ils ne s'amélioreront pas, qu'ils risquent de se blesser en courant lentement. Je ne sais pas de où vient cette croyance-là. Bref, Colombe, merci beaucoup. Merci de ton partage aussi, de repartager les publications. C'est vraiment apprécié. Sinon, Bill... La question la plus importante de tout l'épisode, as-tu couru cette semaine?
Oui, monsieur, j'ai couru. Puis cette semaine, on a fait un épisode sur courir en voyage. Bien, je l'ai appliqué. Cette semaine, j'étais en voyage d'affaires, puis j'étais à Valleyfield. Puis je suis allé courir. Là. Je pense que j'étais là comme 2 jours et demi. J'ai réussi à me rentrer 2 courses. Fait que j'ai visité la ville sous 2 angles. Une fois fin de journée, là, juste avant souper. J'étais allé faire un petit tour au bord de l'eau, super sharp. J'ai vu plusieurs marinas, j'allais dire la marina, plusieurs marinas dans ce coin-là, avec toutes sortes de bateaux. Ça, c'était cool. Puis, je suis allé un matin très tôt où j'avais peut-être un petit peu sous-estimé le facteur noirceur, mais quand même, là, j'étais dans des rues où c'était bien. D'ailleurs, il y a une espèce de canal là, où il y avait plusieurs petits ponts, dont quelques-uns qui étaient éclairés. C'était vraiment magnifique. Donc, j'ai eu pas mal de fun. Ça a été du plaisir pour moi. Puis souvent, ben, en fin de journée, ça m'a libéré l'esprit. Puis l'autre, en début de journée, après deux jours de conférence, là, ça a mieux parti, disons, la troisième journée. C'était très libérateur. Toi, Coach Frank, as-tu couru?
Bien sûr que j'ai couru, mais avant, je voudrais juste spécifier que Ça a l'air d'être un thème récurrent, l'éclairage, chez toi.
Pour vrai, j'en ai déjà parlé.
Ouais, t'as dit que t'avais couru à Tremblant sur la trail le petit train du Nord, puis que t'avais pas de flashlight, puis t'es rentré d'un coureur. Fait.
Ah, le manque d'éclairage, oui, c'est ça. Je pensais que tu revenais sur plus, je te disais, le pont éclairé, parce que je l'ai pas dit, là, mais c'était des espèces, il y avait des espèces de tableaux sur le pont avec des LED de toutes sortes de couleurs. C'était plus que juste de l'éclairage classique, mais ouais, moi, m'éclairer pour me guider, effectivement, je pense que je boque un peu, puis tu parlais en intro qu'on court encore en short, en t-shirt, on est rendu fin octobre. Moi, je suis sûr là, que je garde mes shorts le plus tard possible pour... je suis dans le déni, là. Je retiens l'été, disons. Si je mets mes shorts, c'est encore l'été, puis je peux garder un peu de température avec moi. Il vient un point où on en discutera justement dans l'épisode présent, mais il faut que je me rende à l'évidence.
Tu vois, moi, je suis le contraire. Je suis vite à... Je pense que c'était posté justement sur Strava que Kevin était déjà en legging. Là. Je ne les ai pas mis encore, mais je suis vite à mettre les leggings. Mais par contre, au printemps, au mois d'avril, quand il fait 4, genre, je suis comme le premier en short. Je vais rejoindre les jumps, ils sont comme, qu'est-ce que tu fais en short? Je suis comme, l'été s'en vient, gars. Une party est commencée.
Fait que moi, je le retiens en fin de saison, l'été, puis toi, tu l'attires au début de la saison pour qu'il sorte au plus vite.
Exactement. C'est pour ça qu'on est une équipe.
Mais oui, c'est bon. Fait que ta course cette semaine, c'était quoi?
Ouais, ça s'est super bien passé. Je suis en off-season. Je ne sais pas si on dit... Dis-tu le bon mot, toi, qui est pertinent? Je parle toujours de périodicité, dans le sens que je suis en break présentement. Mais ben, en fait, la périodicité inclut la montée et la descente. Là. Fait que je suis plus côté off-season. J'ai parlé à mon coach cette semaine parce que justement, j'ai dit, je fais quoi? What's next? Tu sais, parce que je voulais pas... C'est la première fois que je me rends au marathon. Fait que là, je veux pas perdre. Tu sais, d'habitude, il me disait comme, cours trois fois semaine, 7 km. Fait que là, je l'ai appelé pour savoir, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? C'est quoi le guideline? Il a été super précis. Il m'a dit entre 12 et 60 km. Fait que j'ai fait OK, c'est quand même un bon range.
T'as de la marge.
Oui, j'ai de la marge un petit peu. Fait que, bref, en gros, il m'a dit minimum 2 fois 6 km. Sinon, il dit il n'y a pas de maximum. Ben, il dit essaye de ne pas en faire. Il dit je veux que tu sois rouillé en janvier, mais que tu recommences parce que j'ai dit que je voulais courir Ottawa, le marathon. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que je pense que j'ai un petit peu dépassé. Pas dépassé, mais j'ai fait un 44 km cette semaine. Dont un 24 avec une amie hier au Mont-Royal. C'était super agréable. Je suis content, j'ai bien recouvert de mon marathon. J'ai un petit truc au genou, mais ça va passer avec le temps.
J'en rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé d'off-season, puis ça nous amène sur notre sujet principal, sur courir l'hiver. Je me pose la question, est-ce qu'on est obligé d'avoir un off-season? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est nécessaire? Puis, je me ramène aux objectifs. C'est quoi les objectifs, vos objectifs de coureur? Je prends mon exemple à moi. Moi, j'aime courir pour mon bien-être. Je suis pas nécessairement dans la performance. Je dis pas qu'à certains moments, là, je vais me pousser un petit peu plus. Je vais avoir du plaisir dans un événement organisé sur un 5, un 10. Je vais dire, OK, good, je me gâte aujourd'hui puis je pousse. Mais le plus clair de mes entraînements sont pas nécessairement structurés en vue d'une performance, mais plutôt dans vraiment un mode de vie de courir fréquemment, je reprends ce que tu as dit, entre 12 et 60 km par semaine, j'ai de la marge, mais je sors souvent, je ne me pousse pas tout le temps, mais c'est vraiment ancré comme un mode de vie. Fait que c'est sûr qu'à mon premier hiver, je me suis posé la question, mon premier hiver de course, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cours dehors? Est-ce que j'ose ça? Il va faire froid, moi j'avais juste couru l'été. Est-ce que je m'achète un tapis de course? Est-ce que j'arrête puis je reprends au printemps? Honnêtement, je vous dirais que c'est tous des choix qui sont valides. Fait qu'il faut voir qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous voulez faire, puis c'est quoi justement, comme Frank a dit, votre périodicité. Est-ce que c'est de faire peut-être même un autre sport l'hiver, faire d'autres choses, de jouer au hockey tout l'hiver, vous pouvez slacker à la course, puis reprendre ça peut-être un peu plus tard au printemps. Moi, dans mon cas, ça a été la question pour le tapis. Honnêtement, je me suis dit, je vais l'essayer dehors, puis des tapis, ils vont en vendre encore en janvier. Si jamais je change d'idée, puis que je vois que c'est complètement non viable. Et finalement, jamais j'ai changé, j'ai resté dehors. L'air de l'extérieur, le plaisir de sortir, l'aération de tout le corps, là, la fraîcheur que ça amène, pour moi, ça a été vraiment révélateur, puis j'ai conservé ça après ça dans toutes mes années de course. Sur tapis, je pense que j'ai 8 km dans mon expérience de coureur sur 10 ans sur tapis, j'ai toujours été dehors.
Ben, c'est pas mal cool parce que moi, j'avais fait l'expérience du gym, en fait. C'est un peu comme ça. Et je suis allé proche de chez moi. Il y a le stade olympique, les installations olympiques. C'est un très, très beau gym. C'est vraiment propre. C'est cool au bout. C'est super cher. Ça m'a comme coûté, je sais pas là, parce que le stationnement a payé un affaire comme 600-700 $. J'étais allé deux semaines sur le tapis, puis j'ai dit « OK, c'est fucking plate, j'aime mieux risquer de tomber, puis de geler, puis de pogner le rhume dehors, que de continuer à courir sur un tapis. » Puis je voulais revenir aussi sur faire d'autres choses. Je vais profiter du deux mois que j'ai de off-season pour courir peut-être 3-4 fois semaine et intégrer du gym. Fait que je veux intégrer les 5 mouvements. Je vais aller voir un entraîneur privé puis je veux apprendre les 5 mouvements qu'Alex Busque nous a dit qu'il était important d'apprendre dans la musculation. Fait que je vais en profiter pour vraiment bien apprendre mes mouvements de musculation pour par la suite les intégrer en janvier quand je vais recommencer ma saison officielle.
Tu nommes ton off-season comme étant une réduction de ton volume de course, que tu dis que tu veux courir 2-3 fois semaine. Il y en a pour qui c'est « ne cours pas du tout » aussi. Puis ça peut être valide, ça peut être viable, ça dépend vraiment de votre objectif. Nous deux, on est à peu près dans la même vibe. On dit « ben on court pour maintenir minimalement nos acquis, puis repartir après ça sur une nouvelle base, pas perdre finalement tout ce qu'on a pu gagner dans cette année de course-là, puis repartir au printemps avec nos nouveaux objectifs de course. » Essentiellement, mettons qu'on va un petit peu plus dans le concret du sujet, là, on va vous parler un petit peu plus d'habillement, des techniques, de la performance, etc. Mais premièrement, je saute dans l'habillement parce que je pense que c'est ce qui est plus déstabilisant pour tout le monde, de dire est-ce que je vais avoir froid, est-ce que je vais avoir, même peut-être qu'il y en a qui se posent la question, je vais avoir trop chaud, parce que partir, mettons, je prends mon manteau de ski pour courir, là, je vous annonce que vous n'aurez pas de plaisir. Là.
Clairement. Avoir trop chaud, c'est vraiment désagréable l'hiver, d'ailleurs.
Je pense que c'est pire que de geler pour vrai en course, d'avoir trop chaud. Parce qu'après ça, on tombe dans une espèce de cycle de « j'ai trop chaud, je me dézippe, je t'en sors en dessous, là, ça gèle encore plus. » C'est terrible. Tout ça pour dire que vous êtes mieux de partir et d'avoir un peu froid. Parce que la température va s'élever quand même assez rapidement. Le truc que je donne à tout le monde puis que j'utilise pour moi-même aussi, c'est de se projeter comme s'il faisait 10 à 12 degrés plus chaud dehors. Je prends un exemple, il fait zéro, mais comment vous vous habilleriez pour faire une activité plutôt statique dehors s'il faisait 12 degrés? Ou s'il fait moins 20, ben on s'habille comme s'il faisait moins 10 pour faire une activité dehors sans être en cardio, là, sans être à l'effort. Ça, généralement, ça marche plutôt bien. Ce qui fait que quand vous allez sortir dehors, le temps que vous partiez, que vous échauffez, oui, vous allez avoir un petit frisson, vous allez geler, vous allez avoir peur d'avoir froid pendant votre course. Je vous garantis que ça n'arrivera pas parce qu'une fois que vous êtes en action, la température interne élève de façon importante puis vous allez atteindre un niveau là, vraiment de confort assez intéressant si vous respectez cette règle-là. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs. La première année, c'est pire parce qu'on ne sait pas, on n'a aucune référence, on essaye des choses, on fait des erreurs, on apprend. Mais je vous dirais que année après année, quand l'automne puis l'hiver revient, on se repose les mêmes questions. C'est sûr qu'on retrouve nos marques plus rapidement, par exemple, parce qu'on a de l'expérience, mais on dirait qu'on en oublie quand même une bonne partie de l'été là, où on ne sait plus comment s'habiller. Mais au lieu de durer un mois l'adaptation, ça va durer 2-3 courses. Vous dites, OK, ouais, c'est vrai, je ne m'habillerai pas trop, je vais en mettre un peu moins. Puis on retrouve nos habitudes, là, ce qu'on avait découvert dans nos saisons précédentes.
Moi, je veux briser toute la pertinence que tu dis là parce que j'ai un fantasme depuis à peu près 5 ans, je dirais, de faire un podcast quotidien sur la météo du coureur parce que le maudit 10 degrés de différence, il marche puis il marche pas. OK? Fait que je vais m'expliquer. S'il fait 10 degrés avec un soleil, oui, c'est clair que tu peux aller courir en short, mais s'il fait 10 degrés avec du vent puis de la pluie, ça se peut que tu aies besoin de leggings puis d'un manteau d'hiver. Fait qu'il y a comme un côté. Et l'hiver, météo-média est comme la pire affaire parce que c'est écrit, mettons, moins 6 ressenti moins 12, tu sors dehors, t'es bien. Puis le lendemain, c'est écrit moins 1, ressenti moins 3, tu sors, tu gèles. J'essaie de comprendre le ressenti, comment il est calculé. Mais il n'est pas calculé pour des coureurs, définitivement. Et c'est peut-être un point que j'aimerais amener, c'est que À force de courir puis d'être souvent à l'extérieur, on réalise comment que la météo, je pense qu'il y a comme un côté instinctif qui vient avec de la météo, de comment que ça va. Puis on réalise aussi que même si, comme cet été, on a eu un été qui avait beaucoup de pluie, on n'est pas sorti si souvent que ça à la pluie, dans le sens que ça ne veut pas dire que c'est à l'heure que tu vas aller courir qu'il va pleuvoir, que tu sais, tu as quand même beaucoup plus de beau temps que de mauvais temps overall. Quand tu sors périodiquement comme ça, tu vois que, OK, mais c'est pas si pire que ça, la météo. Ça ne devrait pas être un stop à faire quelque chose.
T'as raison. S'il y a eu une période de pluie dans une journée, on dit que c'était une journée de pluie, socialement. Mais effectivement, il y a eu des accalmies dans la journée, puis il y a eu des belles périodes pour sortir courir. Je reviens sur ce que tu disais, il y a une température annoncée par Météo Média. Il y a une température ressentie. Bien, généralement, mon plus 10-12, moi, je vais l'appliquer sur le ressenti. C'est souvent celui-là que je regarde parce que ça va prendre en compte un peu plus, justement, l'humidité, le vent, etc. Ça fait un peu plus de sens. Effectivement, tu as raison. Mais il reste qu'il y a des fuck-up à un moment donné. Tu te dis, voyons, j'ai gelé tout le long, puis pourtant, j'ai fait plus 10. Ça marche pas.
Oui, il faisait moins 3, puis j'ai gelé tout le long. Tu sais. J'ai eu plus froid quand il faisait moins 17, genre.
Ça arrive. Non, c'est ça. Shit happens. Par contre, au niveau de l'habillement, il y a de se trouver un niveau de chaleur, mais il y a quand même des techniques pour mieux s'habiller, pour maximiser finalement le confort puis la chaleur. Puis il y a aussi des choses à éviter. Essentiellement, ce qui va vous donner de la chaleur, c'est de la laine, puis encore plus de la laine de mérino, qui est très, très populaire dans les sports d'hiver, que ce soit ski de fond, ski alpin, des couches de base, les base layers en mérino avec différents pourcentages de laine. En course, c'est parfait. Là. C'est vraiment ce qu'on veut. Fait que près du corps, toujours partir avec une base comme ça, quand il fait plus froid, évidemment, là, quand on atteint certaines températures, partir avec une base en laine de mérino. Puis après ça, on y va en multicouche. Fait que ça peut être un t-shirt, deux t-shirts, trois t-shirts à la limite, ou des gilets à manches longues en synthétique. Puis quand il fait plus froid, ben là, on peut venir complémenter avec un manteau qui va être, on veut qu'il soit coupe-vent. Mais généralement, vous regarderez manteau de course ou manteau de ski de fond. Tous les équipements, là, course, ski de fond, là, c'est très, très, très similaire parce que c'est deux sports cardio qui se ressemblent. Des fois, vous ne trouverez pas dans votre magasin des sections vraiment pour coureurs. Ben, allez côté ski de fond, vous allez trouver des équipements qui font beaucoup de sens. Il va vraiment avoir un côté imperméable, souvent sur le devant. Mais généralement, dans les côtés ou à l'arrière du manteau, ça va être plus respirant. Fait que votre humidité va réussir à s'évacuer pour ne pas avoir froid vers l'arrière, mais vers l'avant pour contrer le vent. Généralement, il y a une petite couche un peu plus imperméable ou à l'eau et au vent là, pour garder votre chaleur. Le plus important, je dirais, on dit qu'on n'a pas besoin toujours de s'acheter grand-chose en course, là, mais pas de coton de grâce, que ce soit au niveau des bas, au niveau du haut, au niveau... Le coton est terrible pour faire geler. Ça accumule l'eau, vous allez avoir frette, c'est fou, là.
Tu as totalement raison. Tu me rappelles que je dois m'acheter un manteau, un nouveau manteau, parce que l'autre va être trop grand. Ma tuque aussi, la tuque, je voudrais revenir là-dessus. C'est quand même un truc important. Moi, je l'ai juste partagé, puis je sais que c'est pas pour tout le monde la même chose. Le problème des tuques, souvent, c'est qu'on a froid aux oreilles, puis on a chaud, veut pas, la tête est notre cheminée. Hein, c'est par là que la chaleur se dissipe. Et il y a des tuques de coureur qui a comme une bande de polar tout le tour, et le dessus est très mince. Puis pour moi, c'est une révélation. J'en ai comme 4-5 tuques comme ça, une pour aller travailler, une pour aller pelleter, une pour 2-3 pour aller courir. Souvent dans les boutiques de coureurs, là, ils sont même brandés au nom de la boutique. Puis c'est vraiment génial ça. J'ai vraiment trouvé l'équilibre entre je suis pas en train de suer de la tête et j'ai pas les oreilles qui gèlent. Fait que ça, je voulais faire un petit shoot-out sur ces tuques-là.
Les tuques, la tuque, je retarde ça le plus tard possible. Je déteste avoir une tuque, mais honnêtement, quand je la mets, ma tuque, je l'aime beaucoup. Là, puis c'est vrai que c'est confortable. Par exemple, quand vous avez trouvé la bonne tuque, ça prend ça. Là. Il y a un temps où l'hiver où si tu gèles les oreilles ou tu gèles la tête, tu n'auras pas de belle sortie. Là. Fait que c'est oui.
Clairement. Puis tu parles de tuque qui est longue à mettre. Puis moi aussi, je le retarde. Mais j'ai trouvé, c'est Icebreaker, mais je suis sûr qu'il y a d'autres marques qui en font. Ils font des tuques en sous-couche en laine de mérino. Fait que c'est comme une espèce de bas de nylon. C'est comme si tu te mettais un peu un pantalon de sous-couche sur la tête. Et c'est vraiment confortable. Même quand il fait plus chaud, tu sais, c'est pas ça respire bien. Puis c'est pas désagréable de l'avoir sur la tête. Là. Je parlerais entre saisons, là, comme mettons au mois de novembre, là, c'est quand même agréable comme truc.
Tu parles des sous-couches, puis j'ai parlé tantôt du pourcentage de laine dedans. Ça, c'est à vérifier. Je vais prendre les grandes marques là, de sous-couches là, connues, généralement targetées pour le ski alpin. Il ne faut pas oublier qu'en ski alpin, là, vous êtes actif à peu près 20% du temps de l'activité. Le reste du temps, on est assis dans un chairlift au quatre vents. Fait que c'est sûr que ces couches-là ont besoin d'être beaucoup plus chaudes pour vous garder au chaud pendant les moments d'inactivité. En course, il n'y en a pas tant, à part si vous arrêtez une lumière rouge, là, c'est très court, ou si vous croisez quelqu'un à jaser, là, vous allez vous mettre à geler, évidemment. Mais le plus clair du temps, on est en mouvement, puis on garde notre chaleur. Fait que le taux de laine n'a pas besoin d'être si élevé que ça. Ce que je prends, moi, c'est les paradoxes, si je ne me trompe pas, que je prends au Costco. Ça coûte une bouchée de pain, ils ont 11% de laine, ce qui n'est pas énorme, mais c'est suffisant au niveau de la course. Je vais avoir mon petit frisson dans le premier kilomètre, justement, le temps que j'ai un build-up de ma chaleur. Après ça, je suis très, très bien. Puis, c'est pas un enjeu, là. J'ai pas froid. Par contre, c'est sûr que je vais, dépendamment, je vais aller des fois jusqu'à 5 couches. Ma couche de base, des fois 2, justement. Si c'est très froid, à moins 30, je vais oser en mettre 2 de ça. Je vais mettre 2 gilets techniques en synthétique. Puis, je vais venir supplémenter après ça avec mon manteau de course. Qui, encore une fois, est, oui, imperméable à l'avant, laisse échapper l'humidité en arrière. Puis je suis très, très bien, mais je joue avec ça d'une journée à l'autre. Quand, souvent, je vais courir sur l'heure du dîner, et là, j'amène du bagage. Parce que je vérifie quelques minutes avant de partir combien il fait, puis là, je joue. OK, je mets-tu ce gilet-là, j'en mets-tu 2, j'en mets-tu 1, je joue-tu avec. Puis je trouve mon setup, ben, avec l'expérience, puis avec l'essai-erreur, à un moment donné, je sais un peu quoi porter. Puis je suis très bien, là, sans nécessairement investir dans plusieurs types de manteaux pour la chaleur. C'est vraiment avec le nombre de chandails que je vais mettre, que je vais jouer, que je vais en mettre plus ou moins. Au niveau du manteau, je vous conseille de trouver un manteau qui est lavable parce qu'on a chaud, on sue. Ça vient que ça sent à un moment donné, ces petites choses-là. Fait que lui, votre manteau, peut-être pas à toutes les courses, mais pensez qu'il est à laver peut-être une fois par 5, 6, 10 courses, par exemple. Fait que ça prend quelque chose qui se lave bien, qui va à la laveuse.
T'es chanceux une fois par 10 courses, parce que moi, c'est tous les courses, ça me prend définitivement. Puis je veux rebondir sur tes trucs de cheap, parce que moi aussi, j'utilise les paradoxes. sincèrement, je voulais les shooter out quand t'as commencé à en parler. Vraiment, ils vendent comme... C'est comme 20$ le haut, 20$ le bas, là, un enfant de même, versus du Icebreaker qui est comme 100$ le bas, 100$ le haut. Il y a des épaisseurs dans le. Comme tu disais, là, fait que les prendre légers, tu n'as pas besoin de prendre le gros épais, là, plein de laine. Puis l'autre chose que je t'écoute puis que ça me fait penser, c'est que moi j'utilise, ça a un nom, c'est comme une espèce de sous-couche en polar, là. C'est un vrai chandail. J'achète les Eliensson ou les Columbia, whatever. C'est juste un chandail en polar avec un zipper dans le cou, là, qui remonte comme un peu au cou. Là. Moi, la sous-couche de Mérino, le polar, puis le manteau, je suis bon jusqu'à moins 30, là, généralement. Le polar, il y a comme cette espèce d'effet-là de quand même repousser la sueur, de pas trop la garder. Puis c'est comme, ça coûte rien. Ça coûte comme, je sais pas, 40-50$ un chandail comme ça. Puis sincèrement, ça fait la job. Là. Vraiment, les trois ensemble, ces trois couches-là, pour moi, fonctionnent très, très bien. La laine de Mérino, le polar, puis un manteau, là, c'est juste parfait pour moi.
Je suis un peu cheap comme toi aussi. J'ai investi dans mon manteau. J'ai un manteau craft qui est exceptionnel, que j'adore, puis je suis content d'avoir investi, d'avoir acheté un bon manteau. Par contre, pour mes autres sous-couches, généralement, là, du stock pas très cher, ça fait très, très bien la job. Tu parlais de polar. Moi, celui que j'ai acheté, c'est un petit gilet chez Decathlon. Je pense que j'ai payé ça 12$. C'est ridicule. Il y a vraiment une couche extérieure un peu plus synthétique, puis à l'intérieur, une petite couche de polar avec un zipper justement au cou. Là. C'est magnifique. Ça n'a pas coûté cher. Puis lui, je l'insère à un moment donné quand que des gilets ordinaires font plus. OK, je fais juste supplémenter un peu. J'ai encore ma couche de base. J'ai rajouté ma petite couche de polar avec mon manteau. C'est parfait. Puis là, je vais comme ça. Là. Je progresse dans la saison jusqu'à temps qu'on pogne moins 35. On se dit qu'on va mourir. Mais non, on réussit à s'habiller puis à sortir courir quand même puis à revenir sur nos deux pattes.
La bonne nouvelle, c'est qu'il ne fait pas moins 35 trop longtemps.
Non, puis je me souviens plus qui avait dit ça. J'avais entendu ça sur un autre podcast, justement, qu'il n'y a pas de température trop froide, il y a juste des gens mal habillés. Ça, on a le bon. Si tu t'habilles bien et tu trouves le bon setup, tu vas avoir du plaisir dans ton activité.
Clairement, clairement. Puis on a toujours du plaisir pareil. Ouais. Moi, je dirais que c'est pas le froid. C'est l'entre-deux, là, ce qui est vraiment, je trouve, vraiment désagréable, là, que j'ai peut-être moins de plaisir. J'en ai pareil, là. C'est quand il y a de la slotch, puis tu sautes ces coins de rue, puis tu te mouilles les pieds. Je dirais l'eau est pire que le froid. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, là, ça, c'est ce que je trouve vraiment désagréable. Là, c'est quand il y a des flaques d'eau ces coins de rue, puis tu finis par avoir les pieds mouillés l'hiver. Ça, c'est moins le fun. Hein.
Ce qui amène à notre prochain point des souliers, justement, où il y a plusieurs techniques de se protéger, justement, de l'eau. Encore une fois, hein, comme le haut, le mérino est roi, mettez surtout pas des bas de coton, c'est sûr que vous allez geler des pieds. Ça prend minimalement du synthétique, puis idéalement même des bas de laine de mérino. Encore une fois, Icebreaker, Smart Wool, il y a assurément d'autres marques là. Puis il y a divers degrés, divers épaisseurs, divers degrés de laine. Mais la grosse différence, c'est que le bas de laine de mérino, même mouillé, va garder la chaleur. Ça fait un peu l'effet d'un wetsuit. Si tu veux, que oui, il va se mouiller, vous allez avoir le pied trempé. Par contre, il va prendre la chaleur de votre corps, puis vous n'aurez pas froid. Fait qu'il y a le petit quand tu mets le pied dans une grosse flaque, là. Mais après ça, c'est pas long, ça prend une minute, toute la chaleur de votre corps va le réchauffer, puis vous allez être vraiment bien. C'est surprenant à quel point il y a du confort, même si le pied est mouillé. Puis, si vous ne voulez pas avoir le pied trempé, ben il y a quand même d'autres solutions. Ça peut être, il existe des bas imperméables à essayer. Moi, honnêtement, j'en ai acheté une paire, je les ai mis deux fois, puis je les ai ressouignés dans le fond du tiroir. Ça me donnait le feeling comme quand j'étais ticu, puis que ma mère me mettait des sacs d'épicerie en plastique dans mes bottes là, pour pas avoir froid. Là. Il y a vraiment un côté crunchy là-dedans, parce qu'entre les deux couches de tissu, il y a vraiment un plastique. Je sais pas trop, je les ai pas défaites pour voir. Là. Mais j'aime pas le feeling. Mais oui, le pied reste au sec.
Je suis content de voir que tu viens de la même place que moi. Quand les bottes étaient finies, on mettait des sacs dedans. Ouais. Yeah, ouais. Back in the days. Les enfants n'ont pas connu ça.
Non. Non, ça n'existe plus, je pense. Il n'y a plus de sacs à l'épicerie.
Ouais, c'est ça, c'est illégal. Si vous voulez des sacs en plastique ou des pas, il faut absolument les acheter sur le Darknet parce que sinon, c'est illégal.
C'est proscrit partout. L'autre truc de garder le pied au sec, c'est d'aller avec des souliers en Gore-Tex. Il y a un prix à ça. Prenez, mettons, un soulier. La plupart des grands souliers, des grandes marques de souliers ont un modèle maintenant en Gore-Tex. C'est beaucoup plus démocratisé qu'il y a 10 ans où, je me souviens, ma première paire de souliers de course, et j'avais choisi mes souliers en été, j'avais 18 000 choix. Quand j'étais arrivé, j'ai dit « Hey, je veux courir en hiver, qu'est-ce que tu me conseilles? » Ben voilà, c'est des Salomon Speedcross. OK, il n'y a pas de choix. Non, c'est ça. Ah, OK, super. Fait que toute la belle théorie de « faut que tu trouves le soulier confortable pour ton pied, ça n'existe plus. » Ben non, c'est des Salomon Speedcross. J'ai détesté mon hiver. Puis là, c'est un avis très, très personnel. J'aime le brand Salomon et ces souliers-là, moi, je ne suis pas capable de courir avec. Heureusement, aujourd'hui, à peu près toutes les grandes marques, là, que ce soit Brooks, Saucony, ils ont presque tous leur modèle d'hiver avec une semelle qui est plus agressive, avec des crampons en plastique, pas nécessairement en métal. Il y en a en métal aussi déjà intégré dans sa semelle. Puis, ils ont à peu près tous leur modèle aussi Gore-Tex. Ou quand vous voyez dans le nom du modèle GTX, généralement, là, c'est parce qu'il y a du Gore-Tex dedans. Entre un soulier sans Gore-Tex et avec Gore-Tex, vous pouvez calculer entre 60 et 100 $ de plus que le modèle régulier pour avoir la membrane de Gore-Tex à l'intérieur. Le Gore-Tex a un super bel effet imperméable pour l'eau et pour le vent, ce qui procure quand même beaucoup de chaleur à votre pied. Et le point très positif du Gore-Tex, c'est qu'il va laisser aussi l'humidité s'évacuer de votre pied. Ça garde vraiment, vraiment beaucoup de chaleur. Cependant, c'est sûr que si vous pilez d'une flaque d'eau de 8 pouces de profond, bien, l'eau va rentrer par-dessus votre cheville. T'sais, ça n'empêche pas ça. Puis s'il y a de l'eau dedans, il y a trempe, puis l'eau ne se videra pas. Il n'y a pas des drains dans le bas du soulier, là, on s'entend. Mais tant que l'eau ne rentre pas dedans, c'est beaucoup plus chaud, puis votre pied va rester au sec. Moi, mes derniers hivers, j'ai opté pour le Gore-Tex, puis j'en suis vraiment satisfait. Il y en a qui vont trouver que le feeling est un petit peu plus raide, là, parce que la membrane a une certaine rigidité. C'est pas stiff, mais ça donne quand même un petit peu moins de liberté de mouvement. C'est à essayer. Moi, je vous dirais, je trouve pas ça si pire. Puis pour moi qui gèle tout le temps les pieds, un Gore-Tex, un petit bas de mérino, c'est la joie. Là. J'ai les pieds au sec, au chaud, puis je suis très, très bien.
Moi, je vais rebondir là-dessus, Bill. Le Gore-Tex, je suis comme très confus là-dessus parce que oui, c'est vrai que ça l'aide. Là. Je peux pas dire que ça l'aide pas, mais sincèrement, c'est comme je trouve que c'est overrated. Là. Ils parlent de ça comme si c'était imperméable. C'est zéro, ben, pas zéro imperméable, mais faut, c'est imperméable dans les bonnes conditions. Mettons, je vais dire ça comme ça. Moi, il y a une paire de chaussures que j'ai adorées. Puis je sais qu'ils en font des similaires dans le trail, mais présentement, c'est comme épuisé partout. C'était le Saucony Razor, qui est en fait un Saucony Pairing, qui avait mis une capote en plastique par-dessus. C'était juste mongol, sincèrement. Moi, je suis frileux, là, puis c'était comme courir en pantoufles. Il faisait froid, j'avais froid partout au corps, sauf aux pieds, puis c'était 100% imperméable. Le downside de ça, c'est que faut vraiment les utiliser quand il fait froid, parce que s'il fait chaud, tu sues beaucoup trop des pieds, t'as beaucoup trop chaud, et t'es scrap parce que veux pas, ta sueur sort pas. Mais je trouvais que c'était une paire qui était vraiment géniale. C'est plate. Je ne sais pas, d'après moi, ils n'en vendaient pas assez de ces paires-là parce qu'ils n'en vendent plus. Justement, le temps que tu en parlais, j'essayais de voir si je ne pouvais pas en trouver une paire à quelque part. Peut-être sur eBay, genre Collector Edition, quelque chose. un collectionneur de chaussures qui va les vendre. fait que Saucony, si vous écoutez, s'il vous plaît, refaites-les le Razor Eye, ça serait cool, édition limitée, je ne sais pas, quelque chose. On va mettre les liens dans
les
ouais, c'est ça, l'invitation est lancée. Parce que je suis sûr que Saucony, il écoute coureur.io. Genre, il ne manque pas ça le mardi matin, 7h, ils sont sur leur téléphone à écouter ça. Ça viendra un jour. Mais c'est ça. Puis le Gore-Tex, effectivement, je vais juste rebondir là-dessus. C'est ce qu'il y a de mieux présentement. Il y a dans le trail, j'ai vu que dans le trail, justement, Salomon font plusieurs modèles avec une couche d'imperméabilité de plus, mais ils ont comme des espèces de semelles pour monter une montagne. Moi qui cours en ville, là, je ne suis pas certain que ça serait comme adapté la majorité du temps à ça. Puis, je veux rajouter un autre point là-dessus sur les chaussures d'hiver. Souvent, il y en a qui ont des semelles un peu plus molles pour coller. En tout cas, bref, ils s'usent plus vite d'ailleurs, un peu comme des pneus d'hiver. Mais il y a les crampons, les fameux crampons, puis j'aimerais ça peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, ce que j'ai découvert avec le temps. Oui, on peut acheter des crampons en pharmacie pour 10$, mais généralement, ça vaut 10$. C'est correct pour marcher, pour aller à l'arrêt d'autobus, mais quand tu veux courir un bout, ce n'est pas le best. Moi, ce que je me suis fait conseiller, c'est des Catula, et j'en suis super satisfait. Ça se vend une $50, quelque chose comme ça. Ils se plient, ils ont un petit sac, ils sont vraiment faciles à mettre. Ils ont des petits. Ça a vraiment été conçu pour les coureurs, en fait. Catula, ils font des crampons pour les différents sports, les coureurs, ceux qui font de la montagne, tout ça. Fait que c'est les plus minces, prenez pas les gros avec les gros pics. Ils sont vraiment, vraiment bien, ils se plient. En tout cas, fait que je leur revenais là-dessus. Puis l'autre chose, les crampons, ben c'est plate, mais il faut les mettre quand il y a de la glace parce que si c'est juste une petite couche de verglas, ça fait mal aux genoux. Courir là-dessus, ça donne vraiment mal aux genoux, de l'espèce de rebond que ça crée. S'il n'y a pas comme de la glace vive que tu creuses dedans en tapant, c'est plus désagréable que d'autres choses. Fait que c'était mon petit commentaire sur les crampons. Investissez là-dedans.
Oui, ça vaut la peine pour, comme tu dis, les grandes journées de verglas où il y a de la glace. Par contre, c'est asphalte, c'est pourri. Là. C'est même glissant sur l'asphalte. S'il n'y a pas de neige, au moins une couche de neige là, pour que le crampon rentre. Puis t'as raison, dépendamment du profil du crampon, si on prend un peu trop gros ou si on le place pas comme il faut au-dessus de la semelle, ça crée des points de pression. Puis ça, tu sais, il y en a qui vont capoter parce qu'ils vont passer d'un soulier de 10 à 8 mm. Puis on se borderait pas de mettre un crampon qui a 4 mm d'épais. Ça fait pas tant de sens. Fait qu'effectivement, il faut avoir un sol qui permette que le crampon va rentrer dans le sol, dans la neige ou dans la glace, pour pas trop avoir d'incidence au niveau de notre patron de course. Puis je ramène un coach Frank d'il y a 25 minutes qui disait « Quand il pleut l'hiver, il ne pleut pas toute la journée. » Ben l'hiver, quand il pleut l'été, il ne pleut pas toute la journée dans des périodes de course. Ben l'hiver, c'est pareil. Là. Moi, il y a plusieurs journées en plein hiver où je sors avec mes souliers d'été parce que les rues sont sur l'asphalte puis que je n'ai pas besoin. Il ne fait pas si froid. Il fait moins 2, moins 3. On s'habitue. Je me mets quand même mon bas chaud. Mais je vais sortir avec mes souliers d'été plus légers puis que j'ai en masse de traction au sol parce que c'est de l'asphalte dans les rues. Là. Ensuite, je dirais, au niveau des souliers, prévoyez quand même un peu d'espace quand vous les achetez pour pouvoir mettre des gros bas aussi. Parce que si c'est trop serré, un, vous ne serez pas bien. Puis deux, vous allez avoir froid parce que ce qui est isolant, en fait, c'est l'air. Fait que si vous avez un super gros bas, mais qui est comprimé dans votre soulier parce que vous avez pris un soulier trop petit, vous allez geler pareil parce que c'est pas tant la laine qui est isolante, mais le fait que la laine a beaucoup d'espace, puis ça crée une couche d'air finalement. C'est ça qui est isolant au bout de la ligne. Fait qu'il y a une attention particulière sur les souliers de course au niveau de la grandeur, encore plus l'hiver, parce qu'on va mettre des gros bas.
Merci Coach Bill, tu me rassures. Je suis allé me chercher des chaussures en Gore-Tex et le modèle ont comme changé cette année, puis il était trop petit. Puis l'autre était trop grand. Le 10 était trop petit, le 10,5 était trop grand. Puis j'ai juste fait comme, OK, je prends pas de décision. J'ai pas mes chaussures d'hiver. J'étais pressé. Bref, je les avais comme, je connais le modèle, je les avais mis de côté, je voulais juste les payer. Puis finalement, c'était pas le même vendeur que d'habitude. Fait qu'il me dit, essaye-les donc. Puis en les essayant, étaient effectivement trop petites. Puis quand j'ai essayé le 10,5, je glissais sur le côté. Fait que j'ai dit, je vais prendre le temps de revenir puis d'essayer d'autres modèles cette année. Désolé, New Balance, vous avez perdu un client cet hiver à cause de votre changement de modèle pour les shoot-out.
Finalement, moi qui ai dit que toutes les marques avaient rajouté beaucoup de modèles d'hiver, toi, tu es déception par-dessus déception, c'est ça que j'entends?
Mais oui, à chaque fois, ils changent les modèles. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, parce que le modèle de l'année passée était parfait. Puis là, je ne sais pas, ils ont dû vouloir l'améliorer. Premièrement, ils ont mis une couleur pas mal plus LED, un noir, au lieu d'avoir une belle couleur flash. Puis, il est plus petit. Fait que, désolé. Ouais. Il y a beaucoup de déceptions dans les chaussures d'hiver, mais j'exagère quand même. Je trouve toujours quand même chaussures à mon pied.
Quand on a passé l'habillement du corps, on n'a peut-être pas parlé beaucoup du bas du corps, là, mais tu as touché tantôt leggings. Fait que oui, il y a des leggings qui sont plus minces. Il y a des leggings qui sont doublés avec un polar. Il existe des couches de base en mérino aussi pour le bas. Mais essentiellement, c'est souvent plus du haut qu'on va geler. Oui, il faut s'habiller un petit peu plus chaud en bas, mais les jambes en plus, c'est eux qui sont en action. Les muscles des jambes vont générer beaucoup de chaleur. C'est moins un enjeu, je dirais, que le haut du corps qui est un petit peu plus statique, là, qui a plus tendance à geler. Mais sinon, après ça, on a touché les souliers, les bas. En rafale, j'aimerais juste parler de quelques autres artefacts non, intéressants pour l'hiver. Les gants, c'est sûr que moi qui gèle des mains à rien, là, les gants, même chose. Il existe des sous-couches en mérino que vous pouvez mettre, qui est un gant, mettons, qu'on met dans une mitaine, par exemple. Ça, c'est cool. Il y a des gants qui sont un petit gant, mais avec une petite capote par-dessus pour le mettre un peu en mode mitaine, souvent avec des bandes réfléchissantes, qui peut être pratique. Qui m'amène à l'autre point, l'hiver, il fait noir. On est habitué de courir l'été, que même si on y va tôt avant le travail ou tard le soir, après toutes nos obligations, il fait encore clair, l'hiver, c'est pas le cas. Fait que oui, Coach Bill, faut pas que j'oublie ma lampe frontale, faut que j'y pense. Il y a la lampe frontale, mais il y a aussi d'être visible. Fait que c'est soit d'avoir du réfléchissant sur votre manteau, du réfléchissant, il y a des bandes, des espèces de bretelles de bandes réfléchissantes, qui est un peu comme travailleur de la voirie, là. Sans être la grosse veste, là, mais il y a des petites bandes qui ne sont pas obstructives et qui flashent vraiment gros quand les phares de l'auto vont frapper sur vous. Au début, moi, je trouvais ça un peu gênant. Là. Ouais, c'était un peu têteux, là, mettre mes bretelles. Puis après avoir passé proche, me faire rentrer dedans deux fois par une voiture, je les mets mes bretelles, puis c'est bien correct. Là. Je suis absolument plus gêné. Ma vie vaut plus cher qu'un un petit peu d'honneur ou de
gêne. De look.
De look. Sinon, un truc que je peux vous donner qui a l'air overkill, mais qui est cool dans les tempêtes de neige ou quand ils ventent beaucoup, c'est de prendre des lunettes de ski alpin. C'est vraiment confortable.
Game changer.
Oh, encore une fois, c'est le look. Il ne faut pas être gêné, puis on les met. Mais le beau de la chose, c'est qu'une fois que vous avez ça dans la face, il n'y a plus personne qui vous reconnaît. Mais l'avantage des lunettes, c'est que ça fait un gros pare-brise en avant. Vous n'aurez pas froid aux yeux. Vous n'aurez pas de vent dans les yeux. Puis c'est ventilé tout le tour, fait que généralement, ça bue pas comme juste mettre une lunette de soleil qui protégerait un petit peu. Mais je suis d'accord avec toi, Coach Frank, c'est un game changer, c'est vraiment confortable.
C'est vraiment là, l'hiver, là, quand il fait froid, c'est sûr, j'ai des lunettes de ski d'en face. Puis je revenais sur les gants. On a parlé, je pense qu'on fait un gros shootout à Costco, là, puis justement, je n'ai parlé sur un autre podcast que j'irai plus jamais là de ma vie. Mais ils ont des gants Ed, ils ont comme des petits gants minces, puis généralement, là, je te dirais, pas pour le moins 30, là, mais comme de novembre à décembre, puis de mars à mai, là, Ils font vraiment bien la job, comme pour une vingtaine de dollars. Là, c'est des petits gants, genre, je sais pas trop, c'est synthétique, là, un peu comme en sous-couche. Là, ça fait vraiment une belle job. Fait que je voulais les shooter out là-dessus parce que ça fait plusieurs années que j'ai ça puis je suis vraiment satisfait de ça. Et je suis très frileux des mains. Fait que c'est pas comme... J'ai tendance à geler vite et ils font une très, très bonne job. Fait que pas besoin de payer nécessairement très, très cher pour ça.
On a fait le tour beaucoup des équipements, puis c'est presque exclusivement ce qu'on entend parler quand on parle. On entend parler de courses d'hiver, c'est bien habillez-vous comme il faut, achetez-vous les bons souliers, prenez des bons gants. Là, on tombe dans une autre section du podcast où je veux qu'on parle de la technique puis des performances. C'est souvent des choses qui sont pas tant adressées par rapport à la course d'hiver, puis c'est ce qui cause, j'oserais dire même de l'anxiété ou du stress aux coureurs parce que on se sent pas bon, on se sent pas faire performant, on se demande pourquoi je cours. Finalement, l'hiver, au lieu de juste arrêter, ça me donne quelque chose. Fait que je veux qu'on amène ce côté-là. Pourquoi on court l'hiver? On l'a dit au début de l'épisode, même si vous courez à l'année, on peut le calculer comme un off-season quand même parce qu'il n'y a pas tant de courses organisées. Mais l'important, en tout cas pour moi, puis trouver votre important, pour moi, c'est le maintien de mes acquis, puis j'ai quand même ce besoin-là de bouger puis d'avoir mon fixe de dopamine, de courir. Bien, c'est ça que je vais chercher l'hiver. Fait qu'essentiellement, c'est sûr qu'il faut que j'arrête de regarder ma montre. Il ne faut absolument pas que je compare mes performances avec celles d'été. Ce n'est pas la même chose. Il y a du vent, il y a du froid. Vous êtes beaucoup plus lourd avec toutes les multiples couches de vêtements que vous avez puis la lampe frontale, puis le ci, puis les gants, puis les souliers qui sont plus lourds. Vous avez un paquet d'affaires qui jouent contre vous autres, qui vont, je vais dire, minent votre performance, mais viennent affecter finalement le temps. Mais au bout de la ligne, là, vous avez travaillé aussi fort, puis vous avez fait un exercice qui est aussi payant, sinon plus, mais il ne faut pas se soucier du temps. Ça fait quand on réussit à se détacher de ça, c'est bien, je cours pour le plaisir cet hiver. Je cours pas pour aller aussi vite que cet été. C'est là que ça devient plus amusant, puis qu'on en profite.
Mais moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que tu parles beaucoup du temps des performances, mais il y a deux choses qui sont vraiment très, très, très bénéfiques de courir l'hiver. Moi, j'avais entendu sur un podcast, on va le shooter out, Cours Geek Cours, qui était vraiment cool. Le gars s'appelait Francis en plus, faisait un podcast de course. C'est vieux, mais allez écouter ça. C'est vraiment cool. Faites un pic dans ses écoutes. Un moment donné, il va dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde écoute ça? C'est moi qui t'ai shooté out, Francis. Puis il avait reçu un expert, je ne me souviens pas c'est qui exactement, puis il disait que pour enseigner la technique de course de base à un coureur, il disait, imaginez-vous que vous courez sur la glace. Courir sur la glace, c'est très, très, très bénéfique parce que automatiquement vous allez faire des petites foulées. Vous n'allez pas étendre la jambe trop longue parce que vous allez risquer de glisser. Donc, c'est très bénéfique sur la technique courir quand c'est glissant. Puis, l'autre chose, c'est que quand mars arrive, je dirais 10-15 mars, puis que là, on pogne une journée là, qui fait 7 degrés, que l'asphalte est sec, là. Tu voles. Je veux dire, tu sais, quand tu passes de l'été, tu as des bonnes performances, puis là, l'hiver, ça dégrade, puis que ça revient, là, tu as comme juste l'impression d'être léger, c'est comme, littéralement, tu voles après. Il y a comme un feeling qui est bon d'avoir passé cet hiver-là à souffrir un peu. Quand ça revient, c'est un excellent feeling.
Je t'écoute juste le compter, puis le poil me lève. Là. Je l'imagine, cette journée-là, à chaque année, c'est hot, là, c'est... Comme tu dis, tu voles, tu te sens puissant, t'as un soulier d'été léger qui grippe sa asphalte, c'est malade, sérieux, c'est trippant. Puis j'imagine tout le temps ça en disant, ben l'hiver pour moi, c'est un très, très, très long intervalle. Je vais toffer ça, là, puis watch out, après ça, le bénéfice, la performance, je vais le mesurer, comme tu dis, le 15 mars, où je vais mettre les pieds dans mes souliers d'été, ça se fait, c'est comme, wow, juste wow, ça c'est la paye d'avoir toffé un hiver rude.
J'ai l'odeur qui me vient, l'odeur de cette journée-là. Il y a comme une odeur de printemps, là, de la neige qui fond, là, en tout cas.
C'est écœurant. Puis dans les premiers événements, il y a des événements qui sont tôt en saison. Là. Certaines courses sont organisées en avril même au Québec. Et on le voit la différence. Là. Moi, je sais que dans le ranking, je tire au-dessus de ma tête là, parce que je suis un coureur à l'année tout l'hiver. Quand j'arrive là, non seulement j'ai préservé mes acquis, mais souvent j'ai même gagné une coche dans l'hiver parce que je suis plus résilient, plus fort, parce que c'est des courses plus musculaires l'hiver avec la neige, plus les petits stabilisateurs, les petits muscles qui sont impliqués. Quand on arrive sur d'un premier événement, tu as des coureurs que ça fait 2-3 semaines qui ont recommencé à courir en vue de cet événement-là. Hey boy, on a un edge là, parce qu'on a couru tout l'hiver et qu'on a préservé notre corps. Là. C'est terrible. Là.
Clairement.
Sinon, ben, au niveau du plan aussi, il faut être flexible et indulgent. Si vous avez une sortie prévue le mercredi matin puis que c'est l'apocalypse dehors, ben, vous avez beaucoup plus de bénéfices à ne pas y aller qu'à y aller puis risquer de se blesser finalement parce que tombe sur la glace ou qu'il n'y a aucun plaisir parce qu'ils vendent de la grêle au 90. Vous n'aurez pas de fun puis vous ne gagnerez rien. Fait que, je vous dirais, si vous avez un coach, parlez-lui. C'est lui qui va être capable de vous adapter le reste de votre plan. Si vous n'en avez pas, ben, gérez-vous, mais tu sais, sautez-la à sortie, déplacez-la un autre jour, plus tard en journée. Mais soyez flexible et surtout indulgent avec vous-même qu'une sortie sautée, c'est pas nécessairement non bénéfique. Puis ça peut être une bonne chose de choisir de ne pas la faire pour pas risquer de vous blesser, par exemple.
Ne sous-estimez pas le pelletage, en fait. Parce que des fois, on a une journée de course de prévu au plan, whatever, puis une tempête de neige. Mais pelleter une heure, c'est quand même dur sur le corps. Fait que peut-être réduire un peu, tu sais, ou peut-être mettre la barre un peu moins haute. Si vous aviez un 16 à faire puis que vous avez pelleté une heure et demie le matin, peut-être faire un 10, ça peut suffire parce que ça se cumule quand même. Puis souvent, ben, pour ma part, là, quand je pelle, ce n'est pas mes jambes qui travaillent. Fait que généralement, ça me fatigue beaucoup plus que de courir.
Puis on entend ça souvent, des histoires de gens qui ont claqué des crises cardiaques en pelletant. Là. C'est très exigeant pelleter, t'as raison. Puis faut le rentrer dans la balance, dans le volume total d'exercice cardio. Là. Ça compte. Autre petit truc que je peux vous donner, c'est au niveau de la respiration. Surtout quand il fait froid et très sec l'hiver, où c'est dur. Puis pour certaines personnes, surtout les asthmatiques, ça va être dur parce que les bronches vont avoir tendance à se refermer naturellement parce que l'air qui pénètre dans les poumons est très froide. Les deux trucs que je peux vous donner, le premier, c'est d'adopter une respiration nasale. Plutôt que d'aspirer à pleine bouche par le gros tuyau et que ça rende froid au niveau des poumons, mais d'inspirer par le nez. En partant, le chemin est un petit peu plus long, la cavité nasale est un petit peu plus longue que juste la trachée, ce qui fait que l'air commence à se réchauffer puis arrive un peu moins froide au niveau du poumon. Ce qui fait que l'impact sur la contraction des bronches est moins grand. Fait qu'on inspire par le nez et on expire par la bouche. Puis ça, généralement, ça donne des bons résultats jusqu'à un certain niveau. L'autre étape, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser il y a la marque Buff, là, mais il y en a plein, là, des espèces de tubes qui sont un tout petit tissu qu'on peut mettre devant la bouche, le nez. C'est comme un cache-cou, mais qui est vraiment très, très mince, qu'on peut mettre par-dessus la bouche, le nez. Puis ça crée encore une fois une couche d'air entre l'extérieur puis votre corps. Fait que cet air-là va être un peu plus chaud. C'est sûr que ça devient un peu dégueulasse. Il faut le laver parce que quand on expire, ça fait une espèce de croûte de verglas autour parce qu'on expire de l'air qui est très humide puis ça gèle. Fait que ça fait une couche qui est semi-mouillée, glacée. Mais juste d'avoir cette barrière-là, là, entre ça puis votre bouche, votre nez, ça crée quand même une petite couche d'air de chaleur qui fait que l'air qu'on inspire arrive plus chaud aux poumons. C'est pas mal moins tough pour les bronches, les poumons.
Coach Bill, je pense qu'on a fait un très beau topo. Fait que je ferais juste un petit wrap-up, peut-être les key points à se souvenir sur courir l'hiver. Premièrement, ben, il faut déterminer est-ce qu'on veut courir l'hiver et si oui, quel est notre objectif de toujours le garder en tête? Est-ce que c'est de se maintenir? Est-ce que c'est peut-être de faire du cross, comment ils appellent ça, cross training, ça veut dire faire d'autres activités en même temps. Ensuite, l'habillement, on évite le coton. Je pense que s'il y a une chose à se souvenir, on évite le coton. On fait plus 10, plus 12 degrés sur la température ressentie et on s'ajuste, on essaye d'apprendre, prendre des notes, avoir un moment donné, ça va venir instinctif. Tu vas regarder dehors, tu vas voir un peu la luminosité, la température ressentie, puis tu vas trouver ton truc, ta formule idéale pour t'habiller. Les chaussures, Gore-Tex, qui est imperméable, c'est ce qu'il y a de mieux présentement pour l'hiver, pour les coureurs. Sinon, puis de garder de l'espace pour de l'air. On veut une chaussure plus grande pour bien s'isoler. Les bas, idéalement du mérino, de la laine de mérino, pas de coton, on évite le coton. Tout, en fait, on dit le mérino, mais ça peut être du synthétique aussi. Le synthétique est comme entre le coton puis je dirais le mérino. Bien sûr, c'est le fun, hein, parce que plus qu'on avance, plus qu'on se rend compte que les matériaux nobles comme la laine, le bois, tout ça, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Genre, on a beau faire du plastique puis des alliages, ces matériaux-là sont quand même très naturellement très performants. Si on veut, on s'ajoute des lunettes de ski. On a de l'air un peu nono. Moi, j'ai de l'air d'une grosse mouche parce qu'elles sont comme, en plus, sont comme teintées miroir. Fait que j'ai juste l'air d'une grosse mouche qui court. J'ai envoyé la main à tout le monde, puis le monde a peur l'hiver. Genre. Surtout comme à Saint. Tôt le matin, là, dans le parc, là, le monde sera comme pas trop sûr qu'est-ce que je fais là. La technique, on n'oublie pas que nos performances ne seront pas aussi élevées, mais que c'est très bénéfique sur l'apprentissage de la foulée de notre technique. On est indulgent sur notre plan. Hein? On ne se met pas trop de pression. On se rappelle que c'est l'hiver. S'il y a une tempête de verglas, la tempête du siècle, on peut reporter au lendemain. On peut, à la limite, la sauter puis demander à notre coach ou replacer ça comme il faut dans le programme. Aussi, il y a la maladie. Hein? Je pense qu'on n'a pas parlé, mais l'hiver, c'est propice à avoir une gastro, un rhume, une grippe. Ça va arriver que vous allez manquer une semaine d'entraînement pendant l'hiver, probablement. Malheureusement, je vous le souhaite pas, là, ou peut-être pas une semaine, mais quelques entraînements dus à un rhume, une grippe, une COVID, whatever. Et c'est ça, donc on baisse nos attentes, c'est pas comme l'été. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans 4 mois, jour pour jour, on va être à mi-mars et vous allez être content d'avoir couru tout l'hiver. Vous allez venir faire des likes sur notre podcast parce que vous allez vivre ce 15 mars en chaussures d'été, avec un beau soleil, et vous allez voler.
Seule petite chose que j'ajouterais, c'est au niveau de la sécurité. On le rappelle, il fait noir l'hiver, il fait noir tard le matin, tôt le soir. Lampe frontale, note à moi-même, et bretelles réfléchissantes ou des vêtements avec des artefacts réfléchissants.
Moi, j'aime mieux être beau.
t'es beau, tu gèles, tu peux te faire frapper, mais t'es beau.
Je suis beau, non, c'est pas vrai. Je suis super, super lumineux. Puis d'ailleurs, petit shout-out, si jamais il y a des fabricants, des vendeurs, je trouve qu'on est vraiment poche. Le vélo, c'est beaucoup adapté. Il y a un mouvement qui est genre « to get seen », une affaire comme ça. D'un vêtement de course à pied, tout est noir. Puis tu sais, oui, il y a un petit peu de réfléchissant, là, mais crème, mettez du jaune fluo. Je vois dans les boutiques, là, il y a très peu de couleurs vives. Des vêtements de coureur, puis je trouve ça plate parce que le vélo a vraiment une tendance à être vu, puis tu sais, j'ai beaucoup de vêtements, mes pantalons sont noirs, mes manteaux sont noirs, oui, j'ai des bandes réfléchissantes, ça reste que faut que la lumière frappe dessus pour que je sois vu, fait que petit commentaire, peut-être qu'un jour on changera le monde de la course et qu'il y aura des vêtements aux couleurs flamboyantes pour l'hiver.
Avec un logo coureur.io qui relue dans le noir, ça serait magnifique, ça.
Ça, ça serait fou. En LED, genre, comme en néon. Oui. Ça serait kitsch au bout, ça.
Ouais. Quand tu tapes dessus, ça joue l'intro du podcast. Serait
magnifique. Oh, yes, sir.
On tient quelque chose.
Des vêtements connectés. On passe ça à la brand.
On va en faire deux pour commencer, mettons. Tu sais, je ne partirais pas sur une commande de 10 000, là, mais...
un prototype. Ben, on en aurait pour un bout.
Ouais, c'est sûr.
On en a 10 000, on en a 5 000 chaque.
Good. Hey, bon wrap-up, Coach Frank, merci. Puis, je pense que ça fait un bon tour. Si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets qui vous intéressent par rapport à l'hiver, j'en ai pas, partagez-nous-les, puis on pourra les traiter dans un prochain épisode. Sinon, pour finir, qu'est-ce que tu nous plugs cette semaine?
J'ai changé ma plug, fait que j'y vais avec les vêtements Paradox, parce que je trouve que c'est plate qu'ils vendent juste chez Costco, j'aimerais ça qu'ils en vendent dans un détaillant local. J'imagine qu'ils ont signé une exclusivité ou ça doit être leur propre brand, mais le ratio confort, qualité versus prix est juste comme totalement imbattable pour des sous-couches. Je trouve ça totalement fou à chaque année, puis ils n'ont pas de l'air à monter non plus, tout a monté en flèche, puis c'est encore cette année comme 19,99 $ des pantalons, fait que c'est très fait que je l'ai plugué. On en voit beaucoup d'ailleurs, je vois beaucoup de monde avec ça. Là. Je pense que c'est un modèle très populaire. Puis si jamais il y en a d'autres qui écoutent, qui sont locales, qui pourraient arriver à faire quelque chose de, tu sais, entre le Icebreaker à 100 puis lui, mais tu sais, s'il pouvait faire de quoi à 25-30 $ qui aurait la même qualité, je pense que je serais preneur dans une boutique locale. Fait que, avis aux entrepreneurs dans le monde de la laine de Mérino, ceux qui ont des moutons qui nous écoutent. C'est quoi? C'est des moutons de Mérino, genre?
J'imagine. ou juste une seconde, shoot-out aux entrepreneurs, vous en vendrez au moins deux paires.
C'est, ouais, c'est
je sais
ça,
pas si c'est bon pour un business case, mais on part à deux.
On part à deux, exactement. Peut-être vous signerez une exclusivité avec Costco.
ou coureur.io, puis on deviendra distributeur, qui sait.
Ouais, avec nos vestes lumineuses.
Oui.
Toi, Coach Bill?
Je vous plug la marque Auclair, A-U-C-L-A-I-R. C'est une marque québécoise. C'est été fondée en 1945 dans le coin de Québec, dans Limoilou. Et puis, ça existe toujours aujourd'hui, évidemment. Ils ont une lignée... eux font des gants, je ne l'ai pas dit, des gants des mitaines. Ils ont une lignée spécifique pour coureurs. Tantôt, j'ai parlé des gants qui étaient un gant avec une petite capote qu'on peut mettre par-dessus pour les doigts qui devient un peu comme mode mitaine pour garder plus de chaleur. Ils ont quelques modèles comme ça avec différentes épaisseurs, plus ou moins chauds. Puis ces modèles-là sont très lumineux, justement. Ils ont des bandes blanches pour réfléchir la lumière, notamment les voitures, là, quand vous croisez des voitures. Et ils font aussi des mitaines ordinaires, des mitaines de ski. Moi, étant quelqu'un qui gèle des mains, j'ai toujours fui les mitaines parce que j'ai déjà pas de dextérité dans la vie. Là. Je me trouvais que je me rajoutais un handicap de plus. Mais en courant, ça change pas grand-chose. J'ai rien à manipuler. Puis il y a deux ans, j'ai osé mettre des mitaines au clair, leur modèle, je pense, le plus chaud. La joie, oh, le bonheur d'arriver chez nous. Finalement, j'avais les mains tout trembles de chaleur, mais j'en étais heureux de ne pas avoir gelé des doigts. Parce que normalement, je revenais à la maison avec les doigts blancs, puis ça prenait comme 2 heures à réchauffer. C'était pas plaisant. Là. Depuis que j'ai découvert les mitaines au clair, je suis confortable là-dedans. C'est un bonheur finalement d'aller courir. C'est le dernier bout de mon corps qui gelait encore, que je n'avais pas trouvé de solution. Et ils sont juste parfaits.
Je m'en vais de l'acheter. Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Fait qu'oubliez mon autre plug d'avant.
Non, mais paradoxe, ils font pas de gains, je pense, aux mitaines. Fait que, tu sais, on est
non,
encore...
mais je parlais des aides sur Costco.
Ah, oui.
Sur ce, Coach Bill, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs?
Bonne course!
Même si on vous a déjà souhaité bonne course, un petit message spécial, en fait, un avis de recherche, on vous demande votre collaboration. On aimerait faire un épisode spécial de fin d'année avec des témoignages ou des parcours de nos auditeurs. Donc, si ça vous tente de venir nous jaser un petit 5 minutes sur le podcast de fin d'année, on vous invite à communiquer avec nous sur le messenger de coureur.io. Les liens vont être dans les notes de l'épisode. Sinon, vous pouvez chercher coureur.io sur Facebook et venez nous chercher là. Sinon, on a un formulaire de contact sur le site web au coureur.io, tout simplement. Au plaisir de discuter course avec vous. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.